Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 86 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit, qui nous maintient en esclavage, sans qu'on s'en aperçoive. Cet endoctrinement est aussi en grande partie la cause des guerres, de la pauvreté, de la pollution, avec, à mon avis, les traumatismes émotionnels de l'enfance, ce qui est lié. Le début du livre est à l'épisode 50. Voici le chapitre d'aujourd'hui. La lâcheté de droite. Autant les gens qui votent à gauche veulent un état maman pour protéger et prendre soin de tout le monde, autant les gens qui votent à droite veulent un état papa pour faire le même travail. Les résultats sont légèrement différents, mais l'illusion sous-jacente est la même, le désir d'une autorité toute-puissante pour protéger l'humanité de la réalité. L'illusion de droite se concentre moins sur les soins maternels et la main tendue que sur la protection paternelle et la discipline. Les gens de droite veulent que l'autorité soit utilisé pour créer une grande et puissante machine de protection et pour imposer fermement à la population la moralité qu'ils imaginent nécessaire à la survie de l'humanité. Leur déni de la réalité est aussi fort que celui des gens de gauche. Là encore, l'analogie de l'île illustre bien le propos. Si une centaine de personnes faisaient naufrage sur une île, qui imaginerait que forcer la plupart d'entre elles à servir et à obéir à un protecteur serait nécessaire ou utile? Et qui imaginerait que laisser un ou deux d'entre eux imposer de force leur morale aux autres rendrait ce groupe plus vertueux? Une forme de gouvernement de droite à la papa est l'équivalent d'un père autoritaire qui protège la famille des forces extérieures, le rôle prétendu d'une armée gouvernementale, qui protège chaque membre de la famille des autres membres de la famille, comme des forces de l'ordre domestiques, qui tient les indésirables à l'écart de la famille, l'équivalent des lois sur l'immigration, et qui fait respecter la morale en punissant les membres de la famille qui désobéissent aux règles. Ce dernier point équivaut aux lois contre la pornographie, la prostitution, le jeu, la consommation de drogue, et d'autres habitudes et comportements qui, bien qu'ils ne constituent pas d'usage de force ni de fraude à l'encontre de quiconque, sont considérés par beaucoup comme destructeurs, physiquement, moralement ou spirituellement, pour ceux qui s'y adonnent. Mais ce qui est sans conteste dommageable, c'est d'utiliser la force pour tenter d'imposer la moralité. Outre le fait que personne n'a le droit de contrôler par la force les choix non violents d'autrui, il est également extrêmement dangereux de créer un précédent selon lequel il est acceptable d'utiliser la violence pour éradiquer des comportements inconvenants ou déplaisants. Une fois qu'une telle prémisse est acceptée en principe, la société devient une guerre constante de tous contre tous. Il n'y aura jamais de moment où tout le monde partagera les mêmes valeurs et les mêmes points de vue. Et si la coercition du gouvernement fait que chaque divergence d'opinion, chaque différence de style de vie ou de comportement conduit à un conflit violent, alors la paix et la liberté ne peuvent pas exister. La civilisation, la coexistence pacifique, ne résulte pas de l'uniformité des opinions, mais de l'accord de tous pour s'abstenir d'initier la violence, même contre des gens qui ne croient pas la même chose. L'étatisme de droite, tout comme la version de gauche, garantit des conflits perpétuels parce qu'il cherche à remplacer le libre arbitre et le jugement individuel par la soi-disant morale d'une classe dirigeante dont le premier principe est le conformisme et l'uniformité forcée. Bien entendu, la violence ne peut pas créer la vertu, même si elle crée parfois l'obéissance. De sorte que toutes les tentatives de l'autorité pour contraindre les gens à être moraux et vertueux sont vouées à l'échec et ne font finalement qu'accroître les niveaux de violence et de conflit dans la société. La tolérance réelle. La croyance en l'autorité est si répandue que, dans l'esprit de nombreuses personnes, réprouver quelque chose leur fait immédiatement vouloir que le gouvernement rende cette chose illégale. Dans leur vie privée, la plupart des gens ne songeraient jamais à recourir à la violence contre chaque personne qu'ils rencontrent et qui a une habitude ou un mode de vie qu'ils trouvent désagréable. Presque tout le monde tolère régulièrement les choix et les comportements des autres qu'ils n'approuvent pas. Bien entendu, tolérer quelque chose signifie simplement lui permettre d'exister, c'est-à-dire s'abstenir d'essayer de l'éradiquer par la force. Cela ne signifie pas l'approuver. La véritable tolérance est celle qui permet à des personnes ayant des points de vue et des systèmes de croyances différents de coexister pacifiquement. Ironiquement, la tolérance est souvent utilisée par les étatistes comme une excuse pour se livrer à l'intolérance. Par exemple, si un employeur choisit de ne pas faire affaire avec une personne en raison de son origine, de sa religion, de son orientation sexuelle ou d'une autre caractéristique générale, certains appellent cela de l'intolérance, ce qui n'en est pas, puis préconisent que l'autorité utilise la force, la loi, pour contraindre l'employeur à embaucher la personne que l'autorité estime qu'il devrait embaucher. Il s'agit là d'intolérance car cela revient à refuser à une personne de choisir elle-même avec qui elle veut s'associer et avec qui elle veut ou pas passer un accord. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont la croyance en l'autorité exacerbe les différences et introduit la violence là où elle ne se produirait pas autrement. Il existe plusieurs moyens non violents de décourager les comportements que l'on désapprouve. Prenons l'exemple d'un propriétaire d'entreprise qui refuse d'embaucher des gens de telle ou telle origine, ce qui, aussi répugnant que cela puisse être, n'est pas un acte d'agression. Ceux qui trouvent cette attitude choquante pourraient boycotter l'entreprise de cette personne ou s'élever contre ses pratiques ou ses croyances. Au lieu de cela, les étatistes réagissent généralement en demandant à ceux qui détiennent l'autorité d'imposer à tous des choix prétendument justes et éclairés. Il en va de même pour de nombreux autres problèmes de société. La lutte pour savoir si le mariage homosexuel doit être légalement reconnu ou interdit n'est rien d'autre qu'une compétition à l'intolérance de la part des deux camps. Il n'est pas justifié d'empêcher par la force deux hommes de dire qu'ils sont mariés, pas plus qu'il n'est justifié de forcer quiconque à reconnaître une telle relation comme un mariage. L'idée que tout le monde doit avoir la même idée de ce qui constitue le mariage ou quoi que ce soit d'autre est un symptôme du conformisme-fascisme. De même, les lois sur l'obscénité cherchent à limiter de force ce que les gens peuvent lire ou voir, les lois sur les stupéfiants, ainsi qu'une grande partie de ce que fait la FDA, constituent des tentatives de limiter de force les substances que les gens peuvent ingérer. Les lois sur le salaire minimum tentent de contrôler par la force ce sur quoi deux personnes sont autorisées à se mettre d'accord. Les lois anti-discrimination tentent de forcer les gens à conclure des accords et des associations qu'ils ne souhaitent pas. Les lois comme la loi sur les Américains avec handicap sont des tentatives d'utiliser la force, au nom de l'équité, pour contrôler les services que les gens peuvent offrir, comme la fermeture d'un commerce si le propriétaire n'a pas les moyens d'installer une rampe d'accès pour les fauteuils roulants. Toutes ces lois, tous ces actes d'autorité et de gouvernement sont des actes d'agression, l'exact opposé de la tolérance. Il est absurde d'essayer de forcer les gens à être gentils, justes ou compatissants, non seulement parce que l'agression est intrinsèquement mauvaise, mais aussi parce qu'il n'y aura jamais une seule idée de ce qui est gentil, juste et compatissant. Le fait que des millions de personnes se battent constamment pour le pouvoir de l'autorité, chacun espérant imposer par la force sa vision de la bonté à tous les autres, a été la cause directe de la plupart des violences et des oppressions de l'histoire. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, ce fait est historiquement indiscutable. La plupart des méfaits commis tout au long de l'histoire proviennent de tentatives d'utiliser l'autorité pour accomplir de bonnes choses. La Constitution de l'Union soviétique, par exemple, décrivait une autorité qui devait traiter tout le monde de manière égale, sans distinction d'origine ou de religion, de profession ou de sexe, et préserver les droits individuels de tous les citoyens dans leur vie économique, politique et sociale. Les droits énumérés dans la Constitution soviétique comprenaient la liberté d'expression et la liberté de religion, le droit au travail, le droit au repos et au loisir, le droit au logement. Le résultat concret de cette expérience à l'apparence noble a toutefois été une répression violente et constante, le harcèlement et l'intimidation, l'esclavage économique, la suppression forcée des pensées et des opinions, la pauvreté généralisée et le meurtre de dizaines de millions d'êtres humains, dont beaucoup par une famine intentionnellement orchestrée. La constitution de la République populaire de Chine est très similaire à celle de l'Union soviétique et les résultats ont également été similaires. Répression violente et tyrannie généralisée, ainsi que meurtre de masse. La tentative des autorités chinoises d'utiliser la violence de l'État pour réduire la croissance démographique a eu des résultats particulièrement horribles et déplorables. Les tyrans ont toujours prétendu avoir les intentions les plus nobles dans ce qu'ils font. Mais même les bonnes intentions, lorsqu'elles s'ajoutent à la croyance en l'autorité, aboutissent toujours à une violence immorale, parfois à un degré presque incompréhensible. Même sans tous ces exemples historiques, il devrait être évident qu'il est insensé d'essayer de parvenir à la compassion et à l'équité, à l'amour et à la vertu, à la coopération et à la fraternité, par le biais de l'agression et de la violence autoritaire, et que le gouvernement, par sa nature même, en tant qu'outil de contrôle forcé, ne peut pas conduire à la justice, à la paix et à l'harmonie, et il ne le fera jamais. Il convient également de noter que la gauche et la droite politique sont toutes deux éprises du concept d'égalité, la droite politique prônant l'égalité devant la loi et la gauche l'égalité des résultats. Mais ni l'une ni l'autre ne souhaitent réellement l'égalité, puisqu'elles exemptent toutes deux la classe dirigeante de cette égalité. S'il y a gouvernement, donc des gouvernants et des gouvernés, l'égalité véritable est impossible, car un dirigeant et un dirigé ne peuvent évidemment jamais être égaux. Ce que les étatistes veulent en fait, c'est l'égalité entre les esclaves, mais une énorme égalité entre les esclaves et les maîtres. Cela montre une fois de plus qu'ils considèrent le gouvernement comme surhumain, car il ne leur vient jamais à l'esprit, quand ils prônent l'égalité pour tous, que l'égalité devrait également inclure les politiciens et la police. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire sur iTunes, ça rend le podcast plus visible et ça aide donc les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais.